Chers auditeurs, bonjour. Je suis très heureux de m'adresser à vous cet après-midi et de savoir que je le ferai chaque dimanche pour vous raconter comment je travaille en tant que psychanalyste. Sachez que lors de chaque émission, à la suite de mon récit, je répondrai aux questions que vous aurez enregistrées après avoir écouté le podcast sur notre page L'Inconscient sur franceinter.fr.
L'Inconscient avec le docteur Nasio sur France Inter.
J'ai accepté l'invitation de France Inter de vous parler de mon travail parce que j'aime transmettre ce que j'ai appris sur les sentiments humains, sur l'amour, sur l'agressivité, sur la tristesse, sur la culpabilité, bref, sur toutes les émotions que nous vivons au quotidien. Mais il y a une autre intention, plus importante encore, qui m'a poussé à accepter de créer cette émission L'Inconscient. Je voudrais, en vous racontant des histoires des patients et en vous parlant des émotions, je voudrais vous inciter à réfléchir et à penser à vous-même. J'aimerais qu'en m'écoutant, vous reviennent des souvenirs ou s'éveillent en vous des sensations évocatrices de votre passé. C'est pour cette raison que, lorsque je vous parle, je ne m'adresse pas globalement à tous les auditeurs, mais à chacun de vous personnellement. Je souhaite que notre émission soit un dialogue intime entre vous et moi, et si possible un dialogue intime entre vous et vous-même. Je voudrais que vous entriez dans mon cabinet et comme si vous étiez invisible et silencieux, vous vous installiez à côté de moi, preniez une loupe magique et regardiez ce qui se passe à l'intérieur de ma tête et de mon cœur de thérapeute. Vous comprendrez alors comment j'écoute et guéris mes patients. Vous verrez ainsi ce que 50 années de pratique m'ont appris. Un psychanalyste soigne ses patients grâce non seulement à ce qu'il sait, à ce qu'il fait ou à ce qu'il dit, mais grâce surtout à ce qu'il est, et j'ajoute, à ce qu'il est inconsciemment. En effet, au-delà de la technique qu'il emploie, un psychanalyste, et je devrais dire tout thérapeute, quelle que soit son orientation, un psychanalyste dispose d'un instrument capital, délicat et incomparable, sa propre personne, c'est-à-dire ce qu'il est au plus profond de lui-même et qu'il ignore. Or, nous avons un nom pour désigner ce qui est le plus profond en nous-mêmes et que nous ignorons. Ce nom, c'est justement l'inconscient. Qu'est-ce que l'inconscient ? L'inconscient est une force, la force irrépressible qui est à l'intérieur de chacun de nous, à l'intérieur de moi, à l'intérieur de vous qui êtes en train de m'écouter. Une force qui décide de nos choix cruciaux, du choix de la femme ou de l'homme avec lequel nous partageons notre vie, du choix du métier que nous exerçons et qui nous confère une identité sociale, ou même du choix de la ville, du village ou de la maison que nous aimons et dans laquelle nous habitons. Tous des choix heureux ou malheureux que nous croyons voulus ou dus au hasard, alors qu'en vérité, ils nous ont été dictés par notre inconscient. Voici donc ce qu'est l'inconscient. Il est la part ignorée de nous-mêmes qui détermine ce que nous sommes et ce que nous faisons. Et quand nous agissons comme thérapeutes, détermine ce que nous sommes devant chaque patient qui souffre et nous parle. C'est pourquoi, si vous me demandiez comment travaille un psychanalyste, je vous répondrai, un psychanalyste travaille et guérit ses patients avec son outil le plus précieux, ce qu'il est au plus profond de lui-même, son inconscient. Et j'ajoute, son inconscient instrumental. Mais attention, l'inconscient avec lequel travaille le psychanalyste n'est pas son inconscient personnel à l'état ordinaire, mais son inconscient sublimé. Je ne sais pas comment l'appeler autrement. Son inconscient sublimé. Oui, notre inconscient de psychanalyste est un inconscient modelé, pétri et repétri par de longues années de pratique, c'est-à-dire des longues années durant lesquelles, en écoutant nos patients, nous apprenons à dialoguer avec nous-mêmes et à mieux nous connaître intérieurement. Un inconscient façonné aussi par l'étude passionnée d'une théorie que nous ne cessons de mettre à l'épreuve de l'expérience. C'est donc avec son inconscient des thérapeutes, un inconscient assoupli, réceptif et résonnant qu'un psychanalyste travaille et soigne ses patients. Or, concrètement, comment est-ce que je travaille? Vous le découvrirez tout au long de nos émissions. Mais dès aujourd'hui, je vous en donnerai un aperçu en vous présentant l'exemple d'une séance avec un patient que j'ai nommé « l'homme en noir ». À ces propos, lorsque vous m'entendrez raconter l'histoire d'un patient, je le ferai avec beaucoup de respect pour celui qui a enduré la souffrance et qui m'a fait confiance. Ce sont d'anciens patients que je ne vois plus et qui vont mieux. Bien sûr, j'ai demandé à chacun d'eux de m'autoriser à reprendre son histoire en changeant son nom ainsi que tout détail qui pourrait l'identifier. Venons-en donc à notre récit. Nous allons procéder de la façon suivante. Dans une première partie, vous verrez ce qui se passe dans la tête d'un psychanalyste lorsqu'il écoute son patient. Nous verrons qu'il descend en lui-même et qu'en remontant à la surface, il communique au patient ce qu'il vient de trouver au fond de lui-même. Dans la seconde partie, je vous montrerai cette manière d'écouter un patient avec l'exemple de l'homme en noir. Mais avant de commencer, n'oublions pas et n'oublions jamais que le but de la psychanalyse est de soulager le patient de sa douleur et si possible de le guérir. Voici mon idée. Quand un psychanalyste écoute son patient avec son inconscient instrumental, il lui adresse ensuite une parole émue. Quand cela arrive, le patient modifie la mauvaise image qu'il a de lui-même et son état s'améliore. Mais allons doucement. Je viens d'utiliser le mot « écouter ». Que signifie « écouter » ? Écouter son patient n'est pas une simple disposition d'esprit, fût-elle la plus bienveillante. Non, écouter, c'est rester très concentré sur les manifestations verbales et non verbales du patient. Écouter, c'est tout à l'opposé de l'attention flottante, considérée à tort comme un état d'inattention du thérapeute. Au contraire, écouter celui qui nous parle, c'est nous concentrer fortement sur ce qu'il nous dit. Rappelons-nous la distinction entre les verbes « entendre » et les verbes « écouter ». « Entendre », c'est l'activité auditive d'une oreille qui capte les sons extérieurs qui la frappent ou les voix qui l'appellent. « Entendre » est aussi synonyme de « comprendre », c'est-à-dire attribuer un sens aux mots et aux phrases que l'on nous adresse. Habituellement, quand nous entendons ce qui nous est dit, comme par exemple en ce moment, vous qui m'entendez, nous entendons la sonorité des mots et comprenons le sens des phrases prononcées. Là, nous entendons. Mais lorsque nous écoutons, c'est tout autre chose. Lorsque nous écoutons, nous n'entendons rien. Nous sommes au-delà des sons et du sens. En un raccourci, je vous dirais, nous entendons les mots, mais nous écoutons l'inconscient. Justement, lorsque le psychanalyste écoute, tout focalisé qu'il est sur le patient, c'est le moment culminant, ce moment-là de l'écoute, c'est le moment culminant d'un processus que j'appelle processus de l'écoute. L'écoute n'est donc pas l'acte d'un instant, mais un processus qui s'accomplit en 5 étapes. Durant la première étape, l'analyste observe, attentif, le comportement et l'allure de son patient. Première étape de l'écoute, donc, observation. Ensuite, lorsque son patient lui parle, le praticien essaye de comprendre les sens latents des paroles entendues et des attitudes observées. Deuxième étape donc, compréhension. Durant la troisième étape, étape culminante du processus de l'écoute, le psychanalyste écoute pleinement. C'est l'un des moments les plus passionnants de la relation analytique, car c'est ici que l'inconscient du psychanalyste fusionne avec l'inconscient de l'analysant. Je qualifie ces moments de décisifs, parce que c'est seulement à partir de la fusion intime des deux inconscients que la guérison devient possible. Autrement dit, si cette troisième étape cruciale n'a pas lieu, la guérison est compromise. Et inversement, je dirais que si à la fin de la cure, l'état du patient s'est nettement amélioré, on peut en déduire que l'interpénétration des deux inconscients s'est bien produite. Troisième étape donc, écoute proprement dite. L'étape suivante, la plus difficile à expliquer, est celle où le thérapeute s'installe dans l'inconscient du patient quand il ressent non pas l'émotion que ressent le patient au moment même où il lui parle, mais l'émotion traumatique que le patient a ressentie étant enfant, puis oubliée. C'est l'étape de l'identification du psychanalyste d'aujourd'hui à l'enfant endolori de hier. Je prends un exemple. Je suis devant une femme déprimée. Elle est triste et me dit que sa vie n'a plus de sens. Elle pleure. L'émotion palpable dans la séance, c'est la tristesse. Eh bien, je sens sa tristesse. Mais je ne suis pas triste moi-même. Si les patients se sont angoissés, je sens son angoisse, sans être angoissé moi-même. Mais ce n'est pas cette empathie qui est importante pour le psychanalyste que je suis. Spontanément, nous sommes tous inclins à prendre part à l'émotion vécue par l'autre. Nous partageons quotidiennement les douleurs et les joies de notre compagnon, de notre sœur, de notre mère ou de notre enfant. Mais pour l'analyste, c'est très différent. Le propre du psychanalyste consiste à ressentir l'ancienne émotion traumatique que le patient ne ressent plus aujourd'hui et qui pourtant est là, en lui, derrière l'émotion manifeste. Certes, je sens la tristesse de la patiente déprimée qui me parle, mais étant psychanalyste, je ressens derrière la tristesse la haine. Sa haine, sourde, provoquée par une ancienne et terrible déception, et surtout, je sens la petite fille ou la jeune fille traumatisée de jadis. Vous comprenez que dans cette étape, l'analyste n'opère pas une simple empathie, mais une double empathie. C'est-à-dire qu'il sent l'émotion vécue par les patients qui est devant lui, mais aussi l'émotion traumatique vécue par l'enfant blessé que le patient recèle en lui. Ça, c'est la quatrième étape. Comme je vous ai dit, c'est la plus difficile à expliquer. Nous arrivons enfin à la cinquième et dernière étape du processus de l'écoute. À présent, l'analyste communique à son analysant l'émotion traumatique que lui, analyste, attention, a expérimentée durant sa double empathie. Cette communication au patient le soulage et l'oriente vers la guérison. Cette cinquième étape, nous l'appelons interprétation. L'interprétation, c'est la parole de l'analyste lorsqu'il traduit au patient, avec des mots simples et suggestifs, le vécu émotionnel que lui, attention, les vécus émotionnels que lui, thérapeute, a éprouvé lorsqu'il s'est identifié à l'enfant refoulé. Pour résumer le processus de l'écoute, je dirais, le psychanalyste observe l'allure du patient, il essaye de comprendre ce qu'il dit, il l'écoute pleinement, il sent l'émotion vécue et l'émotion traumatique de son patient, et finalement, il lui communique son interprétation. Venons-en maintenant à l'exemple concret de l'homme en noir qui vous montrera la manière dont j'écoute un patient.
L'inconscient avec le docteur Nasio.
L'homme en noir est un analysant, un jeune homme de 26 ans qui a cette particularité étrange de s'habiller en noir, tout en noir. Depuis le premier jour où je l'ai reçu en consultation, il porte immanquablement un costume noir, toujours le même, une chemise et une cravate noire et se présente à ses séances avec son inévitable parapluie noir, ses gants et son porte-documents tout aussi noir. Je dois vous dire qu'à l'époque, car je ne reçois plus ces patients, son air lugubre gênait tous ceux qu'il croisait dans la salle d'attente de mon cabinet. C'est un jeune homme aux cheveux soigneusement coiffés, de très belle allure, altier, duquel émane une dignité mêlée à une souffrance profonde. Il m'est consulté parce qu'il avait l'impression que rien n'aboutissait dans sa vie, que le temps s'était arrêté. Au cours du premier entretien, j'apprends qu'à l'âge de 6 ans, il perd tragiquement sa mère dans un accident de voiture. Mais à cette tragédie s'ajoutera un mensonge grave du père qui lui fera croire pendant un an que sa mère est partie en voyage. C'est-à-dire que pendant un an, le petit garçon pensera que sa maman l'a abandonné. Depuis ce drame, il n'est jamais parvenu à nouer des attaches affectives, que ce soit avec un père froid et indifférent, ou avec les autres membres de sa famille. Des attaches qui lui auraient permis de faire un deuil normal, c'est-à-dire accepter peu à peu l'absence définitive d'une mère. Dès les premières séances, j'avais le sentiment de me trouver devant un être malade, d'un deuil inaccompli, d'un deuil enclavé en lui comme un obscur noyau de lave pétrifié. 2 ans plus tard, au cours d'une séance où il est allongé sur le divan, j'entends ces mots « Depuis que ma mère est partie ». Sans trop comprendre, je me sens appelé par ces paroles à me concentrer et je me laisse aller à ce qui vient à moi. Je me fais en quelque sorte aveugle. Et en écho à cette phrase « Depuis que ma mère est partie », s'éveille en moi une suite d'images que je décrirai à l'analysant au fur et à mesure de leur apparition. J'interviens alors et ma parole prend la forme d'un récit qui va favoriser sa guérison. Je vous précise tout de suite que les paroles que vous allez entendre sont celles-là même que j'ai communiquées au patient. Une fois mon analysant parti, j'étais tellement impressionné par ce que je venais de vivre que je me suis assis à mon bureau pour coucher sur le papier les mots que je lui avais adressés durant la séance. Voici ce que j'ai livré au patient. Vous venez de dire « Depuis que ma mère est partie ». Et en vous écoutant, m'apparaît l'image d'une mère qui fuit sa maison en ouvrant précipitamment la grille. Un petit garçon de 6 ans veut partir avec elle. Comme s'il savait que sa mère s'en allait pour toujours, l'enfant lui crie « Attends-moi, maman, attends-moi, je viens avec toi ». Et la mère, sans se retourner de lui répondre « Non, 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 tu restes. Tu peux pas venir avec moi. » Malgré les suppliques de l'enfant, la mère s'en va inexorablement et le petit garçon court derrière elle. La mère court et lui court derrière. Elle court et il la suit, infatigable, toujours en courant, attaché à ses pas. Ainsi vont mère et enfant l'un derrière l'autre, sans jamais se rejoindre. Et comme cela, depuis des années, dans une poursuite sans répit. Jusqu'au jour où l'enfant voit la silhouette de sa mère s'éloigner, se fondre dans la brume et disparaître à l'horizon. Démuni et à bout de souffle, le garçon arrête de courir et renonce finalement à rejoindre sa mère. Épuisé, il s'assied sur le bas-côté du chemin, reprend haleine, et soudain, en observant ses mains et ses jambes, il découvre, étonné, qu'il n'est plus un enfant, qu'il a grandi, et qu'il est devenu un homme, qu'émotionnellement, il a aussi mûri, parce qu'il ne vibre ni ne rêve plus comme un petit garçon. Après avoir prononcé ces mots, je m'adresse directement au patient et lui dis « Vous voyez, Gilles, cet arrêt au bord du chemin où vous découvrez que vous n'êtes plus un enfant mais un homme, c'est cela l'analyse. C'est le deuil de votre maman que nous sommes en train de faire ensemble. » Toutes ces paroles et toutes ces images que je viens de vous rapporter, je les ai communiquées aux patients au fur et à mesure de ma perception interne. Pendant que j'ai parlé, Gilles écoutait dans un silence compact, entièrement suspendu à mon récit. Et à la fin de mon intervention, j'entendis son émotion étouffée par des sanglots retenus. Moi-même, en disant ces mots, je me sentais entraîné par le flux irrésistible des images qui défilaient dans mon esprit, par la parole qui venait à moi et me traversait. Et je me sentais entraîné par la vivacité de mon identification avec l'enfant abandonné. J'étais et je me sentais l'enfant imaginaire. Je vivais son déchirement. Certes, j'étais transporté par l'image, par les mots et par l'émotion, mais en étant totalement maître de mon intervention et conscient de ma dissociation. J'étais l'enfant et en même temps, j'étais moi-même. Par exemple, j'évitais délibérément d'utiliser certains termes. À un moment, je me souviens, j'ai failli dire que la mère était partie au royaume des cieux. Aussitôt, je me suis ravisé en pensant qu'un tel cliché rendrait mon intervention inauthentique. Si je vous fais part de cette retenue, c'est pour vous montrer combien mes mots, bien qu'imprévisibles, étaient cependant soigneusement choisis. J'ai parlé vrai et je voulais que mon patient m'entende parler vrai. Je vous précise que cette séance a ouvert la phase finale de la cure qui s'est terminée peu de temps après. Aujourd'hui, je ne vois plus Gilles. Mais je sais, car il me donne régulièrement de ses nouvelles, qu'il a fondé une famille et qu'il s'épanouit dans son travail. Le cas de l'homme en noir reste pour moi une très belle expérience de la manière dont un psychanalyste écoute, interprète et conduit son patient à la guérison. Le travail avec cet analysant m'a permis de constater une nouvelle fois que la plongée du psychanalyste à l'intérieur de lui-même, je dis bien la plongée non pas au dehors, mais à l'intérieur de lui-même, l'analyste plonge au-dedans de lui-même pour y rencontrer la souffrance de l'autre. Vous imaginez, c'est à l'intérieur de moi que je rencontre l'autre. Eh bien, je vous le dis, cette plongée à l'intérieur de soi est le plus puissant agent des guérisons que je connaisse. Le moment est venu de conclure. J'ai voulu vous montrer qu'un psychanalyste travaille avec son inconscient, avec un inconscient très particulier que j'appelle l'inconscient instrumental. Inconscient bien différent de son inconscient personnel. C'est un inconscient professionnel qui s'est bonifié à force de capter, de ressentir et de traduire en images et en mots les émotions étouffées des patients. Or, cet organe, cet inconscient instrumental, cet organe capteur, identificateur et traducteur ne peut opérer que si nous faisons silence en nous. Aussi, lors de l'écoute, descendons au-dedans de nous-mêmes et faisons le vide en nous. Plus profond sera le sol que nous aurons touché, plus forte sera l'impulsion qui nous fait rebondir à la surface et y trouver les mots justes pour dire au patient quelle est sa souffrance et l'en soulager. L'écoute du psychanalyste est cette plongée en lui-même et la psychanalyse est cette impulsion génératrice de guérison.
L'inconscient avec le docteur Nasio.
Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la manière de soulager la souffrance de nos patients. Maintenant, je vais répondre aux questions que vous m'avez adressées après avoir écouté le podcast interactif qui est en ligne sur la page L'inconscient sur franceinter.fr.
C'est drôle, c'est drôle, c'est drôle, on voit bouger des lèvres. Face au miroir, on se demande encore à qui l'on a affaire. Et quelqu'un viendra-t-il un jour accompagner nos silences? Doit-on croire en cette chance? Avance, 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 ne retiens pas ta peine. La nuit s'est fait pour épuiser les poèmes. Avance encore ton visage jusqu'à la lumière. Et sous tes pas, des sourires que tu ne vois pas, qui t'éclairent, et ton visage déjà qui se tourne en arrière. Tu ne vas pas là où pourtant tes rêves t'ont guidé. Tu dis c'est pas le moment, et puis le moment d'après, tu dis c'est déjà trop tard. Demain peut-être, mais demain tout redémarre. Tu ne vas nulle part, avance, avance, ne retiens pas ta peine. La nuit s'est fait pour épuiser les poèmes. Avance encore ton visage jusqu'à la lumière. Ils sont devenus quoi tes amis, sont devenus qui? Ils ont fait des enfants pour combler leur ennui. Mais toi, qu'as-tu appris? C'est pas le moment, et puis le moment d'après, tu dis c'est déjà trop tard. Demain peut-être, mais demain tout redémarre. Tu ne vas nulle part, avance, avance, ne retiens pas ta peine. La nuit s'est fait pour épuiser les poèmes. Avance encore ton visage jusqu'à la lumière.
Au voyage dans l'inconscient. Rendez-vous sur franceinter.fr.
Je voudrais poser une question au docteur Nasio. Quelle est la différence entre un psychiatre, un psychanalyste et un psychologue? Je vous remercie. Au revoir.
Merci de votre question, puisque c'est une question que beaucoup de monde se pose. C'est simple. Le psychiatre est un médecin qui a fait une carrière universitaire et qu'ensuite il a fait une spécialité, les spécialités de psychiatrie. Le psychologue aussi est un universitaire qui a fait une carrière, la carrière de psychologie. Et le psychologue peut avoir différentes spécialités. Il y a des psychologues en institution, il y a des psychologues en prison, il y a différents psychologues. Le psychologue qui reçoit des patients dans un cabinet libéral, c'est un psychologue qui est dans le domaine clinique. C'est un clinicien. Ça veut dire qu'il s'occupe des patients qui présentent des symptômes, des souffrances. Et troisièmement, le psychanalyste, et c'est lui, ça peut être un psychologue, peut être un psychiatre, peut même ne pas avoir de titre universitaire, mais qui pratique la relation avec un patient d'après la méthode psychanalytique. Alors, de la même manière qu'il y a un hypnothérapeute, l'hypnothérapeute pratique l'hypnose, c'est qu'une méthode. Donc on définit psychanalyste par la méthode qu'il applique, non pas par le titre universitaire ou par sa formation d'origine. Alors, je voudrais faire une précision. Il n'y a pas de règles précises. Il y a des règles, certes, mais il y a après l'application de chacun de nous. Alors, bien sûr, vous pouvez me dire, mais est-ce que ce n'est pas l'inconscient qui est au centre de votre interprétation, de votre manière d'aborder le patient? Oui, bien sûr qu'il y a l'inconscient, mais l'inconscient est une attitude du thérapeute, de savoir qu'il y a quelque chose au-delà des mots que j'entends.
Bonjour Myriam. Alors tout d'abord, merci de bien vouloir partager avec nous vos connaissances, Monsieur David Nasio. C'est un sujet passionnant et on vous sent passionné. C'est un vrai délice. Je suis formée en hypnose et en thérapie comportementale. L'inconscient est très présent dans les séances que je pratique, le mien et celui de la personne que j'accompagne. Et en vous écoutant, la question qui me vient, moi qui n'ai pas suivi de psychanalyse, c'est suis-je objectif dans mon écoute? Voilà, j'attends avec impatience votre réponse. Merci à vous, à bientôt.
Merci pour votre question. Non, votre écoute est par nature subjective. C'est vous qui écoutez, avec votre histoire. Votre désir, votre envie d'aller vers l'autre. Toute écoute est subjective. Attention, attention. Subjective chez un professionnel. Il faut qu'il y ait effectivement avant, il faut qu'il y ait un préalable à son écoute, c'est sa formation. Donc c'est une merveille de pouvoir dire « j'écoute subjectivement, mais avec un bagage, un background, comme on dit, très important et très solide. »
Bonjour, Monsieur Nasio. Je suis Jocelyne et j'ai trouvé passionnante votre manière de décrire comment travaille un psychanalyste. Et pourriez-vous préciser quelles sont les conditions préalables chez un sujet qui devient psychanalyste, conditions qui lui permettent d'avoir cette capacité de plonger en lui-même, de faire silence en lui, pour y rencontrer, comme vous dites, la souffrance de celui qui l'écoute. Je pense notamment à la nécessité d'avoir vécu soi-même une analyse qui rende disponible à l'écoute de l'autre. Merci de préciser quelles sont ces conditions préalables au travail du psychanalyste?
Merci pour cette question, parce qu'effectivement, nombreux sont ceux qui se posent la question de comment travailler pour devenir analyste. Qu'est-ce que faut-il faire? Il y en a premièrement l'analyse personnelle, c'est-à-dire il faut aller chez un psychanalyste, chez un autre professionnel, et lui parler de soi, et apprendre à rentrer en soi, parce qu'on souffre, attention. Il y a la souffrance d'abord. Il n'y a pas de psychanalyse sans souffrance. La souffrance, c'est le préalable des préalables. Pour aller s'analyser, il faut souffrir. Si vous ne souffrez pas, il n'y aura pas d'analyse. Donc, ce n'est pas une démarche intellectuelle. C'est une démarche thérapeutique. La psychanalyse est une thérapeutique, c'est-à-dire que nous cherchons à qu'on souffre moins. Bon, donc, je souffre, je vais consulter. Et en consultant et en faisant mon analyse, j'apprends à rentrer en moi. Et ça, c'est une expérience merveilleuse, dure, par moments sympathique. On rit dans les séances, attention, hein. On pleure, on rit. Avec mes patients, parfois, nous rions et je suis très content. Et parfois, on pleure, les patients pleurent, parfois les patients quittent la séance très mal. Il y a la vie dans une séance, avec tout. Eh bien, ça c'est la première expérience pour être analyste, c'est de se connaître soi-même, même pas de connaître soi-même parce que personne ne se connaît soi-même, mais pour apprendre l'exercice de rentrer en soi-même. Numéro un. Numéro deux, il faut étudier. Il faut avoir la passion de vouloir comprendre et d'étudier des textes des grands maîtres de la psychanalyse, de la psychologie, de la philosophie. Il faut étudier la littérature. Par exemple, pour moi, Maupassant, c'est un de mes grands maîtres en psychanalyse. C'est Maupassant. Je lis Maupassant en permanence, autant que Freud. Pourquoi Maupassant? Parce que les poètes sont les meilleurs psychologues qu'on connaît. Ils sont merveilleux. Ils savent beaucoup de la psychologie des êtres humains. Donc, beaucoup lire, beaucoup étudier. Troisièmement, il faut assister à des conférences, assister à des colloques, voir les collègues présenter des cas, présenter des hypothèses. Quatrièmement, il faut superviser sa pratique, si on est praticien, avec un aîné. Moi-même, j'ai eu la chance inouïe d'avoir des grands maîtres qui m'ont supervisé, dont Lacan, entre autres. Et cinquièmement, il faut être attentif à la vie. Sortez de vous, allez vers l'autre, c'est ça qui compte. C'est la cinquième condition.
L'inconscient sur France Inter avec le docteur Nasio.
Oui, bonjour, je suis Gabriella. Je voulais laisser ce message parce que dans la publicité du podcast, il y a une image sur un analyste assis sur son fauteuil et l'analysant au divan. Et il y a vraiment une erreur et c'est l'analyste qui est face, vraiment face, au analysant allongé dans les divans, comme si les visages pouvaient se voir. Justement, ce qui est le contraire du dispositif analytique. Voilà, je voulais vous dire simplement ça. Je pense que c'est important.
C'est sympathique votre question, parce que, vous savez, ça me permet de dire une chose importante. Il y a des idées reçues sur la psychanalyse qui font beaucoup de mal à la psychanalyse. Et on croit que la psychanalyse, c'est le divan. Et que s'il n'y a pas un patient allongé sur le divan, il n'y a pas de psychanalyse. Ce n'est pas vrai. La psychanalyse n'est pas qu'un dispositif. D'ailleurs, je vous raconte une anecdote. Un jour, dans mon cabinet, pendant plusieurs jours, j'ai mon voisin qui fait des travaux. C'était impossible de rester dans mon bureau. Et comme j'habite à côté du pont Mirabeau, eh ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé, parce que c'était pas possible de faire les séances dans mon cabinet, j'ai demandé aux patients de marcher ensemble jusqu'au bout du pont Mirabeau, aller et retour, ce qui fait à peu près une demi-heure, et faire les séances en marchant. Ça, c'est de la psychanalyse. Et pourquoi? Alors, vous pouvez me dire, mais docteur Nasio, c'est très bien, mais alors, c'est où la psychanalyse? Quand c'est la psychanalyse? La psychanalyse, c'est dans l'écoute, dans la manière d'écouter votre patient. La psychanalyse, c'est dans les trois empathies dont je vous ai parlé. Il faut que je trouve l'autre en moi. Ça serait la définition de la psychanalyse. Trouver l'autre à l'intérieur de moi. Si vous faites ça, c'est de la psychanalyse. Et non pas les fauteuils. Cela étant, vous avez raison, madame, c'était amusant dans ce dessin où le fauteuil du psychanalyste est devant les pieds du patient. Bon, mon fauteuil à moi, par exemple, je suis comme classiquement derrière la tête du patient, mais parfois je mets le fauteuil à côté du divan. Et j'ai des patients qui sont assis face à face. Donc j'ai toutes les variantes. Derrière le divan, à côté du divan, ou j'ai un patient qui s'assoit face à face. Comme avec les enfants. Quand je reçois des enfants, je mets une petite table et l'enfant est devant moi. Ça, c'est de la psychanalyse. Pourquoi? Parce que je suis psychanalyste. Parce que je sens comme psychanalyste. Parce que j'écoute comme psychanalyste.
Bonjour, je suis Michel. Ma question pour le docteur est la suivante. J'ai trouvé intéressante la notion d'empathie, de triple empathie plus exactement. Ayant suivi la série télévisée En thérapie, j'avais cru y percevoir une certaine critique de la trop grande capacité du docteur Dayan à ressentir de l'empathie pour ses analysants. J'aimerais que vous précisiez votre point de vue sur le rôle curatif de l'empathie. Y a-t-il contradiction de ce sentiment qui risque d'être envahissant avec le devoir de réserve nécessaire? Et dans la pratique, est-ce différent de ce que vous appelez l'inconscient instrumental, qui me semble être une sorte de maîtrise dans l'utilisation professionnelle de votre inconscient? Merci.
Effectivement, merci madame, parce que le thème de l'empathie est, pour moi est passionnant. C'est une, pour moi une découverte que j'ai fait il y a une vingtaine d'années. C'est pas au début que je me suis aperçu. Parce que l'empathie, bon, c'est un terme très utilisé, mais là, j'ai voulu faire de ce terme un concept. C'est pour ça que j'utilisais la triple empathie. À tel point que cette triple empathie, et pour moi, c'est une des figures les plus importantes de l'inconscient instrumental du psychanalyste. Et que, je dirais autrement, que si la personne utilise la triple empathie, surtout la seconde, c'est-à-dire sentir ce que le patient ressent sans savoir qu'il le ressent, attention, eh bien, si le thérapeute ressent cela, c'est bien de la psychanalyse dont il s'agit. Mais je voudrais revenir, c'est thérapeutique. Pourquoi c'est thérapeutique? Parce que s'il y a cette empathie, ou plutôt s'il y a la triple empathie, en particulier la seconde, eh bien, vous avez la possibilité d'avoir le choix de dire au patient ou de ne pas lui dire des mots qui soient justes et qui lui font du bien, qui le soulagent de sa souffrance.
Bonjour, ici Frédéric de Paris. On dit souvent que la psychanalyse est un travail de longue haleine qui s'étend sur plusieurs années. Est-ce réellement le cas? Et est-il souvent possible de résoudre le problème en quelques séances, comme apparemment dans le cas de l'homme en noir? Merci.
Non, le cas de l'homme en noir, j'ai travaillé avec Gilles pendant 3 ans, quand même. Non. Cette séance que je vous ai racontée a été décisive, certes. Elle s'est produite à peu près au bout d'un an et demi d'avoir travaillé ensemble avec lui. 1 an et demi, 2 ans. Et à partir de cette séance, les choses ont énormément changé dans la bonne direction. et nous avons pu conclure notre travail d'analyse au bout de 3 ans à peu près, 2 ans et quelques mois. Je souhaite et je fais en sorte que les thérapies ne soient pas trop longues. Je vous le précise tout de suite, pour moi, l'idéal d'une thérapie, c'est avec les enfants, il ne faut pas que ça dépasse de 6 mois au plus. Et avec un adolescent, il faut que ça ne dépasse pas 1 an, 1 an et demi. Et avec les adultes, il ne faut pas qu'il soit dépasse de 2 ou 3 ans, si possible. Je serais très heureux et si on peut travailler comme ça. Il y a une série des idées reçues. J'espère que mon émission va progressivement dissiper ces idées reçues. Il y a une idée reçue, c'est que la psychanalyse ne termine jamais. Eh bien non, je ne suis pas d'accord avec des psychanalyses interminables. Il faut que la psychanalyse soit conduite. Il y a une direction de la cure, comme nous l'appelons dans notre jargon, et que cela soit une direction de la cure destinée à que l'analyse se termine le plus tôt possible. Ça, il faut que, vous savez, même avec un enfant, moi, mon souhait, c'est une séance avec un enfant. J'ai pas besoin des 2, j'ai pas besoin des 3. Et qui le dit ça? C'est pas le docteur Nasio, c'est le docteur Winnicott. Donald Winnicott, qui est un des plus grands maîtres de la psychanalyse anglaise en pédiatrie, disait que pour lui, l'idéal, c'est de recevoir une seule fois l'enfant avec ses parents et qu'ensuite, les parents continuent avec la même attitude qu'ils ont appris de l'analyste lors de cet entretien, de cette consultation, et que donc, il continue à reprendre les mêmes attitudes de l'analyste vis-à-vis de son enfant. Donc, pour moi, c'est la même chose. Quand je reçois un enfant, pas plus d'une fois, si c'est possible. Je ne veux pas trop pour l'enfant. Sinon, il y a une influence trop importante. Avec l'adulte, c'est la même chose. Bien, voilà l'esprit dans lequel je suis vis-à-vis du temps d'une cure. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Merci à tous pour votre intérêt, vos questions qui nous ont permis d'approfondir le thème de l'écoute du psychanalyste. Il est l'heure de nous quitter. Je voudrais remercier Audrey Ripouille pour la réalisation de notre émission et des podcasts, ainsi que Philippe Duclos à la technique. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 15h. D'ici là, je vous invite à aller sur la page L'inconscient sur franceinter.fr où vous pourrez découvrir nos 2 prochains épisodes en podcast. Le premier consacré aux adolescents et le second consacré à l'histoire de Clara, un petit bébé déprimé. Merci d'écouter ces podcasts et s'ils vous inspirent, n'hésitez pas à m'adresser vos remarques et vos questions. J'y répondrai avec plaisir dimanche prochain. Je vous souhaite à tous une excellente semaine.